Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Des troubadours à Patti Smith, Dominique Marny nous propose un beau livre sur les écrits d'amour. Franck Ferrand s'y est plongé durant tout le week-end. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Je suis heureux de recevoir Dominique Marny pour évoquer avec elle toutes ces belles correspondances amoureuses. Et à titre de préambule, je vous propose d'aller faire connaissance avec le roi des troubadours. On est à l'époque de l'amour courtois, vous savez, il s'appelait Bernard de Ventadour.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Maxime sur l'origine du baiser.
Eh bien voilà, une émission sur les déclarations d'amour qui se termine par une histoire du baiser sur la bouche. Les plus fidèles d'entre vous avoueront que les lundis se suivent et ne se ressemblent pas.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On croit toujours avoir tout inventé, vous savez, y compris l'amour. Et nous avons, notamment du Moyen-Âge, une image assez fausse. On a toujours l'image de cette espèce de période extrêmement longue. Ça dure 1000 ans, le Moyen-Âge. Hein. Une période obscure, une période crasseuse, etc. Enfin, c'est l'image qu'on a comme ça, populairement. Si l'on regarde de plus près la réalité, on se rend compte que c'est très différent, bien entendu. Il y a eu des époques magnifiques dans ce Moyen-Âge. Il y a eu des vagues successives de culture, de développement économique, bien entendu, de rayonnement des arts. Tout ça a contribué à faire le socle de notre civilisation actuelle. Et si l'on devait aller chercher dans le Moyen-Âge une période particulièrement lumineuse et douce, ce serait celle du XIIe, XIIIe siècle, avec un système féodal qui s'est stabilisé et qui crée donc qui crée les conditions d'un véritable essor démographique, avec aussi la luxuriance d'un certain nombre de cours aristocratiques où l'on va développer les sentiments jusqu'à un niveau tout à fait raffiné. Toute une culture pleine de délicatesse va se répandre à cette époque. Un personnage illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire, c'est Bernard de Ventadour, qui a été poète troubadour. Vous savez qu'au nord de la Loire, on disait un trouvert, au sud, un troubadour, dans cette langue d'oc que j'aimerais aujourd'hui pouvoir maîtriser pour mieux vous dire les vers de Ventadour. Ces vers qui témoignent, et rien moins, qui témoignent d'une nouvelle manière d'aimer. Pour tout vous dire, on ne sait pas grand-chose de la vie de ce personnage. Les historiens nous disent « Oh là là, Bernard de Ventadour, on ne sait pas grand-chose ». On peut quand même recouper un certain nombre de récits de chroniqueurs, on dispose des textes de ses poèmes, et grâce à tout ça, un certain nombre d'auteurs hardis ont tenté de reconstituer les grandes étapes de son existence, une existence dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas commune. Bernard est né entre 1125 et 1130. D'après vous, où est-il né ? À Ventadour, bien entendu, aux confins du Limousin. Contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, il n'est pas noble. Hein. On l'appelle Bernard de Ventadour parce qu'il est de là. Mais il n'est pas noble puisqu'il est au contraire né, il a grandi dans une toute petite chaumière qui devait sans doute ressembler à une sorte de taudis pas très loin des murailles du château de Ventadour, forteresse érigée sur l'un des les robustes éperons rocheux de cette région, qui est une région très âpre, d'une grande beauté d'ailleurs, cette partie du Limousin, région sauvage, très vallonnée. Son père est un serviteur qui travaille comme fournier, c'est-à-dire qu'il est chargé de la confection du pain pour les seigneurs locaux. Il tient le four, si vous voulez, tout simplement. Et assez vite, on pense que Bernard a eu accès dans sa jeunesse à un peu d'instruction, peut-être auprès des moines du prieuré voisin, tout simplement. On ne sait pas. On a tout le droit d'imaginer quand on ne sait pas. On peut imaginer ce petit garçon qui va effectivement bénéficier du savoir de ces moines qui sont là tout près. Surtout, il va bénéficier d'une circonstance qui, très jeune, va décider du reste de sa vie, va tout changer. Il se trouve que le vicomte de Ventadour, le maître du château de voisin, il s'appelle Elbe II, est aussi un passionné de musique. Il a une véritable prédilection pour la poésie des troubadours. D'ailleurs, lui-même est surnommé le chanteur, Elbe le chanteur, et sous les voûtes de son château, qu'il faut imaginer passablement massive tout de même, et on entend résonner les mélodies chaleureuses de ces troubadours qui remontent de tout le midi, de tout le sud-ouest de l'actuelle France, et sans qu'on sache exactement comment, il semble que ce soit là que Bernard, dont on peut imaginer l'instinct précoce, probablement la voix harmonieuse, c'est là qu'il a vu son talent éclore. Il a été repéré, il est accueilli au château, il s'initie à cet art tellement magique des troubadours, il manie les premiers instruments. Alors bon, quand il est petit, évidemment, on lui confie les petits instruments tout facile, et puis petit à petit, il va devenir musicien lui-même et chanteur. Il va perfectionner son chant, il va apprendre les règles de la métrique et de la poésie. Le temps passe, Bernard devient un très beau jeune homme, très doué, il fait le ravissement de la petite cour de ses maîtres, plus besoin de faire venir de troubadours de l'extérieur puisqu'il est à lui tout seul un ravissement. Et si l'on suit les hypothèses de Léon Billet, qui est son biographe, un jeu amoureux commence à se dessiner entre ce chanteur incroyable et la vicomtesse de Ventadour. C'est la belle-fille, hein, c'est l'épouse du successeur d'Elbe II, elle s'appelle Alice de Montpellier. Voilà ce que nous raconte le biographe. Riche d'une culture patiemment acquise, admirablement inspirée, flatté de son admission à la cour seigneuriale et surtout fasciné par la beauté et le charme de la jeune Alice, Bernard s'adonne de toute son âme à la composition. Il atteint dans ses chants un lyrisme d'une fraîcheur et d'une sincérité jamais égalées. De sa viole, il tire des accords d'une gracieuse simplicité et d'une prenante mélodie. Ah, on est dans ce mouvement extrêmement puissant de l'amour courtois que les troubadours du midi appellent le fin amor, où se noue en quelque sorte notre civilisation. Il y a en même temps une vraie liaison, disons-le, entre Bernard et Alice, mais une liaison courtoise. C'est-à-dire que vous avez le chanteur d'un côté qui est de basse extraction, vous l'aurez compris, né dans un gourbi au pied du château, et puis la belle dame dont on chante l'amour sans jamais la nommer. Il y a une sorte de jeu de miroir qui s'établit dans la société féodale entre le seigneur et son vassal. Le poète se pose en serviteur fidèle et dévoué de celle qu'il aime, qu'il place très haut, qu'il idéalise, bien entendu. Il lui exprime des sentiments purs, des sentiments profonds. Il doit se montrer très épris, évidemment, ça, il ne faut pas qu'on ait le moindre doute sur la question, et en même temps très déférent. Il faut que tout ça reste absolument dans les codes établis. La dame, comme souvent dans l'amour courtois, est mariée. Peu importe, le chanteur s'inscrit dans cet amour impossible qui va faire la base même de toute cette civilisation, de tout cet art en tout cas. Tension sentimentale, sensuelle, qui va bien entendu stimuler la création. Mais voilà, le petit jeu semble être allé peut-être un peu au-delà des conventions poétiques. Assez en tout cas pour que le vicomte de Ventadour finisse par se rendre compte de quelque chose et chasse le pauvre poète. Vous imaginez, le coup est terrible. Nous sommes là aux alentours de 1150, ce qui veut dire que Bernard a une vingtaine d'années. Il est tout triste, tout dépité, tout esselé, à la recherche, en attendant de retrouver une belle dame à aimer, à la recherche d'une terre d'exil. Il a la bonne idée à ce moment-là d'aller frapper à la cour la plus importante de l'époque, la plus rayonnante, la plus extraordinaire, celle d'Aliénor d'Aquitaine.
Thank you.
méditation de Thaïs de Jules Massenet sur Europe 1. Restez avec nous, on parle d'amour jusqu'à 15h avec Franck Ferrand. Les lettres d'amour, la cour avec le séducteur Bernard de Ventadour. C'est à suivre sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, à travers l'histoire, nous revisitons les célèbres lettres d'amour. Alors voici maintenant la suite des aventures sentimentales de Bernard de Ventadour, qui vient de frapper à la porte de la cour d'Aliénor d'Aquitaine.
Et oui, vous savez, j'ai souvent eu l'occasion de vous parler d'Aliénor ici. C'est un des grands personnages de notre histoire. Elle a été reine de France, l'épouse de Louis VII. Et lorsqu'elle est arrivée à la cour à Paris, vous imaginez, aux côtés de son mari qui venait tout juste d'accéder au trône, puisqu'il est devenu roi pendant le voyage qui les ramenait de Bordeaux où ils s'étaient mariés. Elle qui avait été habituée à la somptueuse cour d'Aquitaine, avec tous ses troubadours, justement, à ses banquets extraordinaires, à ses bals, etc. Elle s'est retrouvée dans la cour de Paris qui était d'une rudesse absolument terrible. Ça a été épouvantable. Et elle a passé tout son règne de reine de France, Aliénor, à faire venir des troubadours, à rendre cette cour un peu plus extraordinaire. Et elle avait en propre, parmi ses très nombreuses possessions, le château de Poitiers, vous savez. Elle était d'ailleurs, la grande dame de Poitiers. Et au moment où ça commence à aller vraiment très mal avec Louis VII, où il est question d'une séparation et même, pourquoi pas, d'une annulation de leur mariage, elle vient se réinstaller à Poitiers avec tous ses troubadours, avec toute sa suite. Et c'est là que va la trouver Bernard, qui lui donc arrive de Ventadour, pas très loin finalement. C'est tout à fait naturel qu'il ait été attiré par la puissance et la richesse d'une telle cour. L'accueil qu'on lui réserve est sans doute un accueil chaleureux, et d'autant plus qu'on a affaire à un beau poète extrêmement talentueux et très malheureux, et qui sait chanter ses malheurs amoureux. Il nous dit par exemple: hélas, je croyais tant savoir d'amour et j'en sais si peu, car je ne peux me retenir d'aimer celle dont je n'aurai plus de profit. Elle a tout mon cœur, elle m'a tout entier, elle m'a moi-même et tout le monde, et quand elle me prit, elle ne me laissa rien que le désir et le cœur avide. Alors évidemment, traduit en langue Doyle et qui plus est en langue moderne française, ça ne veut plus dire grand-chose, mais il faut imaginer la très jolie musique de ces paroles de langue doc à l'époque. Pour Léon Billet, Bernard va trouver à Poitiers un nouveau souffle. La large générosité d'Aliénor dédommage le troubadour de son tenace chagrin, écrit-il, lui redonne la joie de vivre. Il désigne fréquemment sa protectrice sous l'appellation de Conorte, sa consolation, son encouragement. Aliénor peut passer dès lors pour l'incarnation de cette haute dame inaccessible, objet de l'amour courtois. Eh oui, ça va recommencer. Évidemment, l'amour de Bernard va trouver de nouveau à s'employer. De là, supposer que les sentiments célébrés par l'artiste sont devenus réels, ou même qu'ils aient été partagés en retour par Aliénor, ça c'est une autre histoire. Voilà ce que dit Régine Pernoud à ce sujet. Faut-il voir dans les strophes passionnées du troubadour plus que la règle du genre et qu'un sentiment littéraire? Nous ne le saurons jamais au juste, mais sans doute peut-on se demander si les deux héros du roman supposé l'ont su beaucoup mieux que nous, s'ils ont eu eux-mêmes claire conscience d'éprouver un sentiment qui engageait leur être, ou de jouer seulement un jeu futile et délicieux répondant aux nécessités poétiques. Oh, il doit y avoir un peu des deux. On commence par croire à la chanson d'amour et puis l'on croit un peu à ce qu'elle traduit. Quoi qu'il en soit, la situation d'Aliénor va changer, vous le savez, puisqu'elle va épouser le duc d'Anjou, plus exactement son fils, Henri. Henri Plantagenet, en 1152, il est de 10 ans son cadet, ce Henri. Il est duc d'Anjou, de Normandie. Il est prétendant au trône d'Angleterre et vous pouvez compter sur Aliénor derrière pour le pousser, jusqu'à ce que, en 1154, Henri devienne roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. Et ça, c'est un cas sans précédent dans l'histoire. Voilà la reine de France, l'ancienne reine de France Aliénor, qui devient maintenant reine d'Angleterre. Il faut imaginer les grandes festivités du couronnement, c'est extraordinaire. La reine emmène avec elle en Angleterre un certain nombre d'artistes. Bernard fait partie de ceux qui sont rattachés à la cour de Henri, et qui va effectivement, c'est très intéressant ça, parce que on avait déjà connu ce phénomène phénomène avec la conquête de Guillaume le Conquérant deux siècles plus tôt, mais là on a de nouveau une sorte de déferlement de culture continentale et en l'occurrence méridionale sur l'Angleterre et sur ce pays britannique qui va se forger au feu de l'amour courtois. À cette époque, Bernard continue de composer des vers dans lesquels beaucoup ont voulu lire la poursuite du jeu amoureux et littéraire avec la belle reine. Il parle toujours de ce désir inassouvi, hein. J'en attends une si bonne espérance, mais elle m'aide si peu, aussi je me tiens en balance comme la nef sur l'onde, écrit-il. Bernard a alors une vie itinérante, une vie d'artiste de cour. Il est probable qu'il accompagne les souverains dans un certain nombre de leurs voyages, notamment lorsqu'ils se rendent à Paris, ce qui ne manque pas de sel en 1158. Le couple royal Aliénor-Henri a été très fécond. C'est vrai qu'ils vont avoir 8 enfants, dont 5 garçons. Alors ça va poser des problèmes plus tard, mais on n'en est pas encore là. Mais Aliénor, pour autant, ne supporte pas que son mari lui impose ses maîtresses, car il est vraiment, c'est un épouvantable mari, Henri. Elle est bafouée, elle est blessée, elle est ulcérée, cette femme qui, en plus, est nettement plus âgée que son mari. Et en 1167, elle décide que c'en est trop, elle repart pour Poitiers, elle se fixe à Poitiers avec un certain nombre de ses fils. Évidemment, elle a emmené avec elle Bernard dans ses bagages. Ça va être la grande époque de Poitiers et des cours d'amour.
Et c'est en douceur que commence cette semaine sur Europe 1 avec Franck Ferrand, puisque l'on parle d'amour. Cet après-midi, vous pouvez bien sûr réagir à cette émission en envoyant vos messages sur la page Facebook Au cœur de l'histoire sur Europe 1.fr et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
L'amour à travers l'histoire, voilà ce que vous propose cet après-midi Franck Ferrand. Et nous découvrons l'amour qu'avait Bernard de Ventadour pour Aliénor d'Aquitaine.
Lui qui cherchait une dame absolue à adorer, évidemment, il ne pouvait mieux trouver qu'en la personne de cette reine de France puis d'Angleterre. Cette Aliénor qui tient salon, si j'ose employer cet anachronisme, à Poitiers. Régine Pernoud le souligne, la cour de Poitiers devient par excellence un foyer de poésie, le centre de la vie courtoise et chevaleresque du temps. Plus encore qu'en France ou en Angleterre, Aliénor y est reine. Elle règne par ses enfants, elle règne par une cour de vassaux et de poètes empressés. Plus encore, elle domine ceux qui l'entourent par ce rayonnement de l'esprit, cet amour des lettres et du beau langage qui sont sa marque personnelle. Mais les fêtes grandioses, les tournois qui sont organisés, les distractions rythmées par les mélopées des troubadours ne font pas oublier à Aliénor cette vengeance qu'elle a en tête. C'est qu'elle va peu à peu monter ses enfants contre leur père, contre Henri II. Elle va les pousser à la révolte. Les choses tournent mal. En 1173, alors qu'elle a été obligée de s'enfuir sous un déguisement parce qu'elle est poursuivie par les troupes de son mari, elle est capturée, arrêtée. Le roi d'Angleterre l'a fait enfermer dans un couvent de l'autre côté de la Manche et ça va durer 15 ans. Elle ne sera libérée que 15 ans plus tard. Et vous imaginez ce que va devenir cette cour d'artiste privée de sa protectrice, privée de sa muse. C'est probablement le moment qu'a choisi Bernard de Ventadour, qui maintenant a bientôt la cinquantaine et qui bénéficie d'une certaine célébrité, le moment qu'il choisit pour s'en aller chercher un nouvel asile. Les auteurs sont une nouvelle fois divisés sur la destination exacte de notre troubadour. Est-ce qu'il a bifurqué vers le nord ou vers le sud? Il semble qu'il soit plutôt allé au sud. Gérard Lomenec suggère qu'il se soit rendu, auprès d'Ermengarde de Narbonne, dont il fit souvent l'éloge, avant d'aller demeurer chez le comte Raymond V de Toulouse, autre prince célèbre pour ses prodigalités au troubadour. Ainsi, ajoute-t-il, il ne devait jamais revoir Aliénor, et dans une de ses chansons, il loue la beauté et les charmes de la gaie souveraine dont il avait dû à regret se séparer. On ne sait pas qui s'était séparé de qui du reste. On en sait assez peu sur ces années, disons-le. On pense qu'il est resté à la cour du comte de Toulouse, probablement jusqu'à la mort de celui-ci en 1194. Il a sans doute été mêlé, hein. Je vous ai parlé de Raymond V de Toulouse. Évidemment, ça a des échos, ça. Il a sans doute été mêlé au développement de l'hérésie cathare. Ce sont des questions qui se posent et auxquelles les historiens hésitent à répondre. Il semble quand même que, une fois devenu âgé, Bernard ait pris la décision d'aller aller rejoindre un monastère, pas très loin de sa région natale, à Dallon. Voilà ce que nous dit Léon Billet. Dans cette abbaye florissante, il trouve une retraite. Notre ex-troubadour a échangé son manteau orné de dentelles pour une bure rugueuse. Il a maintenant la tête rasée. Il doit se contenter de légères collations et souvent jeûner, se plier à l'observation stricte de la règle, renoncer à toute préséance. Sa voix est portée par des harmonies nouvelles qui sont les harmonies religieuses et peut-être y a-t-elle fait merveille comme dans les précédentes. En tout cas, c'est là qu'il meurt à une date inconnue, c'est là qu'il meurt à Dallon. Alors, on a aujourd'hui conservé, c'est peut-être ce qu'on sait le mieux de lui, on a conservé pas mal d'œuvres de Bernard de Ventadour. Elles sont composées, encore une fois, je vous le disais, en langue d'oc. Hein, c'est tout différent. Si jamais quelqu'un a su parler aux dames courtoisement d'amour, c'est bien Bernard de Ventadour, dit Régine Pernoud en faisant une rime sans doute involontaire. Alors, voilà, dans notre ouvrage, dans les écrits d'amour réunis par Dominique Marny, voilà ce qu'on peut lire de Bernard de Ventadour, « Nuit et jour je médite ». Alors voilà ce que ça donne en traduction actuelle. « Jour et nuit je pense, je médite et je veille, je me lamente et je soupire, puis je me tranquillise. » Ce qui devait se dire, mais je ne sais pas du tout le prononcer, « Noi et jaune pesco si réveille, plane et sospire et pois napaille. » Vous voyez que c'est autre chose, c'est une autre poésie, c'est une autre chanson. Bonjour Dominique Marny.
Bonjour.
Vous avez fait un très beau livre et grâce à vous, nous allons pouvoir revivre les grandes amours du passé cet après-midi.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est tout en douceur que commence cette semaine, cet après-midi jusqu'à 15h. On parle d'amour avec vous, Franck Ferrand. Vous recevez Dominique Marny, écrivain et commissaire d'exposition et auteur d'écrits d'amour des troubadours à Patti Smith, paru chez Omnibus.
Mais je vous trouve bien discrète. Il me semble, Anissa, que vous recevez des billets doux par...
C'est vrai, j'ai reçu un très gentil tweet. Hein, vous voulez que je vous le lise,
oui
Franck? Que j'aimerais être le troubadour de la divine Anissa afin de lui conter Florette.
Oh, c'est pas
Pascal,
joli, ça.
C'est très gentil.
Bravo,
merci
Pascal.
Beaucoup.
Je crois que vous avez tout à fait raison. Alors, il faut que Dominique Marny nous disions un mot de cette espèce de troubadour dont on ne sait pas grand-chose, ce Bernard de Ventadour. On a l'impression que sa vie n'aura été qu'un amour manqué, en quelque sorte.
Sa vie n'aura été qu'un amour manqué, comme celle de beaucoup de troubadours, puisqu'en fait, ils étaient condamnés à aimer des femmes qui leur permettaient de les aimer, mais qui ne les aimaient pas forcément en retour, ou en tout cas qui les aimaient de loin. C'est-à-dire que le troubadour déclarait son amour. En général, il ne nommait pas le nom de la femme qu'il aimait parce que il y avait l'adultère qui était extrêmement puni et toutes les dames qui étaient aimées des troubadours étaient mariées. Généralement, leur mari guerroyait ou la chasse, enfin, elle n'était pas là. Et ces femmes se laissaient aimer par ces poètes. Donc, ils ne prononçaient pas leur nom. C'était très secret. Et alors, quand ils étaient vraiment très bien vus, ils se faisaient donner un anneau par la femme qu'ils aimaient. Ça voulait dire qu'ils avaient le droit de poursuivre leur cours. Et puis, il y avait des épreuves. Et notamment, ils avaient le droit de regarder la femme nue pendant qu'elle prenait son bain. Elle savait très bien qu'il la regardait. Mais elle faisait semblant de ne pas savoir.
En fait, cette distance établie, cette impossibilité institutionnelle, d'une certaine manière, ça devait érotiser la situation à l'extrême, non ?
C'était extrêmement érotique, jusqu'à ce qu'on appelait la sague, l'essai en provençal, où il avait enfin le droit de rejoindre sa dame dans sa couche, dans son lit, mais l'un et l'autre ne se touchaient pas, et c'était beaucoup plus exaltant que d'avoir un acte sexuel.
Voilà, vous nous ouvrez des perspectives cet après-midi.
C'est très pervers. Hein.
Alors, cet amour courtois qui est un modèle de civilisation, on ne dira jamais, alors je ne vais pas entrer là dans la grande histoire au basque de Norbert Elias et dire que c'est le procès de civilisation, mais c'est vrai quand même. C'est cet amour courtois qui va faire entrer la civilisation en Europe, en Occident, disons-le, qui va la faire revenir plus exactement.
C'est exact. C'est-à-dire que le XIIe siècle, c'est là où finalement le sentiment est nommé. L'amour existe, on le dit, on le clame. Alors que jusqu'à cette époque, enfin, je parle en France, hein, d'abord les mariages étaient complètement arrangés par les familles. Et si les mariages n'étaient pas arrangés, c'était des rapts ou des enlèvements, enfin des choses assez épouvantables. Les mariages étaient arrangés, mais entre deux très très jeunes adolescents, qui ne se connaissaient pas, donc qui n'étaient pas du tout certains de s'aimer. Et l'amour, le véritable amour...
L'amour venait parfois, mais par hasard, quasiment.
Par hasard, oui. Et finalement, l'amour ne pouvait exister qu'hors mariage, puisqu'il n'était pas toujours heureux, ces fameux mariages.
Mais oui, bien sûr.
Donc c'est un moment où la femme est terriblement déifiée, la femme est mise,
sur
elle est
idolâtrée. Alors c'est le même moment où l'on voit se développer le culte marial, par ailleurs dans l'Église, ça n'est pas un hasard, et l'on voit l'Église lutter contre l'amour courtois. C'est paradoxal ça tout de même.
Oui, parce que tout mariage est religieux à ce moment-là, ça changera avec la Révolution, mais en tout cas les mariages sont religieux. Donc et ensuite la femme dans la chrétienté n'est pas forcément mise au premier rang. Donc il faut absolument rabaisser la femme et la mettre sous la domination des hommes. Donc on commence à dire, voilà, si vous voulez aimer une femme magnifique, eh bien il y a la Vierge Marie, et sinon les autres, eh bien il va falloir les faire rentrer dans le rang.
C'est ça. Néanmoins, les femmes ne rentreront jamais tout à fait dans le rang, et au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on va voir quelques auteurs reprendre la tradition de l'amour courtois en l'adaptant, bien entendu. Je pense à Mademoiselle de Scudéry, par exemple.
Mademoiselle de Scudéry, les précieuses ridicules qui, après des périodes, justement après cette fine amour, il y a des périodes beaucoup plus obscures, beaucoup plus troubles, où la femme est à nouveau sous le boisseau.
La fine amour, c'est l'amour courtois au sens Languedoc.
C'est exactement ça, oui. Eh bien, Mademoiselle de Scudéry trouve que les hommes se comportent à nouveau brutalement, elle en a assez des gasconnades, de tout ça, et elles sont très modernes, en fait. Ce sont des femmes affranchies avant la lettre, puisqu'elles décident que le mariage devrait se renouveler. C'est-à-dire qu'on pourrait se marier pour un certain nombre de temps et on renouvellerait ce contrat, ce qui est profondément moderne.
Oui, tout à fait.
Et elle est l'instigatrice de la carte du tendre.
Vous voyez toutes les idées qui naissent dans ce studio cet après-midi.
L'instigatrice de la carte du tendre, où les villages ont le nom de Petits Soins, Grands Soins, il y a la mer dangereuse, il y a le lac d'indifférence. Eh bien, c'est une manière de dire comment évoluer à travers les dangers de l'amour et aussi pouvoir trouver son chemin vers quelque chose d'extraordinaire.
C'est un parcours initiatique.
C'est un parcours initiatique.
Là, l'amour est encore vécu comme la chose la plus noble. Ça va évoluer avec le temps parce qu'au tournant du XVIIIe siècle et alors ensuite dans le siècle de Crébillon, de Diderot, que sais-je, de Rétif de la Bretonne, l'amour s'avilit d'une certaine manière et ça devient un peu un combat. Ce sont les liaisons dangereuses.
Alors il peut être effectivement un combat, et puis il peut être aussi d'une grande légèreté, c'est-à-dire qu'en fait on assiège une femme, c'est comme si on prenait une citadelle, et plus c'est compliqué, mieux c'est, on le voit très bien avec la clôt dans les liaisons dangereuses, donc on assiège cette femme, mais aussi l'amour doit être vécu de façon légère, c'est-à-dire qu'on doit se désaimer à partir du moment où déjà on devient plus indifférent. Il n'y a pas de drame, on s'aime, on ne s'aime plus, on se sépare, et tout ça dans une sorte d'insouciance. C'est un peu est-ce qu'ils sentent la révolution arriver?
Eh oui.
Et voilà, et on brûle de tous ces feux et on profite de la vie au maximum.
Alors en même temps, cette révolution, elle va voir le pouvoir passer de l'aristocratie à la bourgeoisie, une bourgeoisie qui ne plaisante pas, si je puis dire. Ce n'est pas l'époque des amours là. Et pourtant, on va avoir, grâce au mouvement, au courant romantique, l'exaltation de la passion.
Oui, parce que tout d'un coup, les guerres napoléoniennes se terminent, on est dans des périodes de paix, et ces hommes qui étaient très occupés, il va falloir qu'ils s'occupent à autre chose. Alors ils vont décider de s'occuper en tombant amoureux, et en tombant amoureux, en général, de femmes assez inaccessibles. Il y a beaucoup de lamentations, de pleurs, c'est l'époque, Musset, Hugo, etc. Et puis, cette aristocratie, et puis cette bourgeoisie, surtout, qui va être très importante au moment de Napoléon III, puisque la France va se moderniser, s'industrialiser, eh bien, à ce moment-là, il va être très important pour les hommes mariés de pouvoir avoir une maîtresse, et c'est officiel, et cette maîtresse va être absolument traitée mieux que les femmes légitimes. C'est l'époque des grandes courtisanes.
Évidemment, et qui va se prolonger assez longtemps, jusqu'à ce que l'amour, j'allais dire, se démocratise au XXe siècle.
Oui, jusqu'à ce que l'amour se démocratise, puisqu'il va y avoir évidemment les grandes courtisanes de la Belle Époque, et puis il va y avoir la guerre de 14-18 qui va changer les choses. Les femmes, finalement, tiennent les rênes du pays pendant que les hommes sont à la guerre, et elles n'ont pas l'intention de perdre cette indépendance. Et à ce moment-là, à la fin de la guerre, les femmes vont effectivement pouvoir dire ce qu'elles veulent, et surtout, le mariage ne va plus être arrangé. On ne va plus se marier pour des questions de famille, d'intérêt, etc. On va se marier en choisissant celui que l'on veut. Et ça va être un grand tournant dans la façon dont est vécu le sentiment.
Dans votre bel album, qui est magnifiquement illustré, il faut le dire, vous avez choisi des écrits d'amour. Vous ne les avez pas choisis par période chronologique, vous les avez choisis par thème. Il y a le thème de l'aveu, le thème du désir, celui des tourments amoureux, enfin le thème de la promesse. Nous allons y venir dans le détail et avec des exemples à l'appui dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Je reçois à l'instant où je rentre chez moi votre missive bleue matin. 20 fois je la relis et mes yeux n'y croient pas, pourtant c'est écrit là, madame. Et de votre douleur je me sens pénétrée, mais je ne pourrai rien, madame. Vous savez aujourd'hui que de l'avoir perdue, c'est lourd à supporter, madame. Vous demandez pardon de n'avoir pas compris ce qu'était notre amour, madame. Vous n'aviez que ce fils, vous aviez peur pour lui, et vous l'avez gardé, madame. Ne me demandez pas ce qu'a été ma vie quand vous me l'avez pris, madame. Je me suis toujours tue, ce n'est pas aujourd'hui que je vous le dirai, madame.
Madame Barbara sur Europe 1 pour cette émission consacrée à l'amour. Franck Ferrand, vous recevez Dominique Marny, écrivain et commissaire d'exposition et auteur du livre « Écrits d'amour » des troubadours à Patti Smith, paru chez Omnibus.
Oui, la chanson de Barbara est une déclaration indirecte à un amour déjà perdu. Il y en a de plus naturel, de plus agréable et plus franche dans cet ouvrage de Dominique Marny. Bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie, bonjour mon œil, bonjour ma chère amie et bonjour ma toute belle, ma mignardise, bonjour, mes délices, mon amour, mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle, mon doux plaisir, ma douce colombelle, mon passereau, ma jante tourterelle, bonjour ma douce rebelle, écrit Ronsard. Avec toute la grâce de la Pléiade et du XVIe siècle, Dominique Marny.
Oui, avec ce courant humaniste et puis aussi cette influence italienne. Et il écrit ça à une jeune paysanne, Marie Dupin, dont il est tombé très amoureux. C'est probablement entre deux voyages. Il se fait pardonner d'être parti un peu trop longtemps.
Vous avez présenté cet écrit d'amour dans la partie réservée à l'aveu. C'est pas ce qu'il y a de plus fascinant, finalement, dans l'amour, l'aveu.
C'est certainement
s'avouer à soi-même et avouer à l'autre.
S'avouer à soi-même et avouer à l'autre et l'avouer en écrit, en écrivant, parce que finalement, est-ce qu'on ne dit pas plus facilement les choses quand on n'a pas la personne en face de soi? Est-ce qu'on ne se laisse pas plus aller à la confession? Et c'est pour ça que les lettres d'amour ou même les scènes de romans ou des œuvres théâtrales où l'on se projette, c'est assez formidable par rapport à un dialogue quotidien.
Comme disait Anissa hors micro, on écrit quand même de moins en moins d'écrits d'amour aujourd'hui. On fait des textos.
On fait des textos, mais on peut aussi faire des textos assez intéressants.
Lettres, hein, oui. Oui, d'ailleurs, pourquoi pas, c'est vrai. Certains y consacrent
des
parties entières de la journée à écrire le texto exact, celui qui va toucher, bien entendu, celui qui va faire mouche. Alors, on ne peut pas rendre compte de l'extraordinaire foisonnement d'écrits d'amour qui figure dans ce bel ouvrage. Quelques exemples qu'on peut peut-être grappiller ici ou là à une passante de Baudelaire, par exemple.
C'est un passage magnifique. C'est dans Les Fleurs du Mal, dans le recueil des Fleurs du Mal. Et là, c'est un homme qui est dans la rue, une rue grouillante de monde, et une femme en grand deuil. Et ça, j'insiste là-dessus. Une femme en grand deuil. Mais oui, ça change tout. Le croise. Et il y a juste deux regards qui se rencontrent comme ça. Et elle passe, lui aussi, c'est fini, c'est totalement éphémère, mais le soir, il y repense, comme quelque chose de très important. C'est vraiment un éclat de désir.
Alors, on pourrait presque dire que c'est l'inverse de ce qui se passe pour le coup de foudre d'Aragon, en l'occurrence.
Le coup de foudre d'Aragon, dans Aurélien. Aurélien est un grand... Il additionne les conquêtes, il a des femmes autant qu'il veut, et un jour, il voit Bérénice et il ne la trouve pas belle. Il ne la trouve vraiment pas belle. Et pourtant, il va en tomber fou amoureux. Elle ne voudra pas de lui pendant très longtemps. Et ça deviendra même une obsession pour lui de la conquérir.
Vous êtes allé chercher toutes les amours possibles. Alors, j'emploie tantôt le masculin, tantôt le féminin. C'est que ce mot amour est un peu bizarre, puisqu'en français, il est masculin au singulier et féminin au pluriel. C'est ainsi. C'est une habitude, c'est une tradition. Je disais que vous utilisez toutes sortes d'amours dans ce livre. Vous parlez même d'amours animales avec Balzac.
Oui, ça c'est trop. Je pouvais pas laisser ça de côté parce que c'est une scène délicieuse. Évidemment, c'est dans Balzac a écrit les scènes de la vie publique et privée, et c'est les peines de cœur d'une chatte anglaise, et c'est l'histoire d'une chatte beauty très snob anglaise. Et que se passe-t-il? Elle tombe folle amoureuse d'un chat de gouttière, Brisquet. Et elle trouve qu'il a de très très mauvaises manières, donc elle lui dit que quand même il faudrait qu'il se déclare un peu mieux, mais c'est absolument délicieux. C'était pas possible de laisser ça de côté.
Il y a des déclarations énamourées parce que après l'aveu vient le désir.
Oui.
Donc là, c'est la partie chaude du livre, si je puis dire.
Oui, hein. Et là, les écrivains, on écrit vraiment des textes très importants.
Avec de la correspondance, notamment, incroyable. Il y a eu, on a livré au papier tellement de confidences.
Oui. Par exemple, amoureuses. Henri Miller, oui. Et Anaïs Nin, 1932, tout de même. Et de part et d'autre, on se rend compte que leur entente physique est extrêmement importante, qu'elle est totale et qu'elle est accompagnée aussi d'une grande émulation littéraire et artistique.
Votre lettre, ah, ces mouches, vous me faites sourire et tu me fais t'adorer aussi. C'est vrai, je ne t'apprécie pas assez, c'est vrai, mais je n'ai jamais dit que tu ne m'appréciais pas. Je crois qu'il doit y avoir un faux sens dans ton anglais. Ce serait trop égoïste de ma part de dire cela. Il y a une sorte de volonté de posséder l'autre, en quelque
oui,
sorte.
Oui, et d'ailleurs, Miller dit à Anaïs Nin, qui est extrêmement sophistiquée, raffinée, qu'il la prévient, il lui dit, je vais te bousculer.
Oui. comprenne qui pourra.
Voilà.
Alors, il n'y a pas que des amours hétérosexuels. Vous faites une place importante aux amours homosexuels avec oui. Jean Genet, par exemple, cette page extraordinaire du condamné à mort, ou Jean Cocteau qui écrit « Notre entrelac d'amour à des lettres ressemble, sur un arbre se mélangeant, et sur ce lit nos corps s'entortillent ensemble, comme à ton nom le nom de Jean ».
C'est un des plus beaux poèmes de Jean Cocteau, plein chant. Et c'est vrai que même Marguerite Yourcenar l'a dit, c'est une des plus belles choses dans son œuvre. C'est la mort, l'amour, le sommeil, c'est tout Cocteau.
Eros et Thanatos. Alors il y a l'aveu, il y a le désir, mais on sait bien que dans l'amour, il y a aussi le tourment. Ça fait souffrir tout ça.
Il n'y a pas d'amour.
ça c'est Aragon de
oui,
nouveau,
absolument.
Il n'y a pas d'amour.
Il n'y a pas d'amour heureux. Et le tourment, bien évidemment, est là. Il s'accompagne de jalousie, de suspicion, de reproches. Je crois que tout le monde passe par là, dans les auteurs que j'ai choisis. Et c'est intéressant parce qu'il y a des ruptures définitives et il y a des ruptures où tout de même on peut se laisser adoucir.
Alors il y a du Racine, bien entendu, tout est pleuré, le Racine de Bérénice, bien entendu, la correspondance de Georges Sand et de Musset.
Dans quand elle le quitte pour Pagello à Venise.
Dans un registre assez volcanique, on peut le dire. Il y a la vision assez platonique de Marguerite Yourcenar, Alexis ou le traité du vin combat.
Superbe texte qu'elle a écrit très jeune. Je crois qu'elle a écrit à 24 ans l'âge qu'elle donne à son personnage. Et c'est l'histoire d'un musicien qui a épousé une femme à laquelle il n'a rien à reprocher. Elle est absolument admirable. Et un jour tout de même, il lui dit qu'il faut qu'il vive selon ses désirs et qu'il aime les hommes et que c'est pour cela qu'il la quitte.
Et puis peut-être le plus intense de tous les textes, cette lettre d'une inconnue de Stefan Zweig.
Oui, alors ça c'est un très très beau texte qui a d'ailleurs été magnifiquement réalisé au cinéma par Ophuls. C'est cette femme qui, petite adolescente, tombe amoureuse d'un homme qui vient s'installer à côté de chez elle. Il ne la regarde pas, sauf qu'elle, elle est totalement occupée par le simple fait de le voir. Et en vieillissant, elle décide qu'elle sera un jour sa maîtresse, enfin qu'elle fera sa conquête. Et elle le devient. Et puis il part, le temps passe, elle essaye de le retrouver, elle le retrouve et elle se rend compte qu'il n'a complètement oublié, qu'il ne la reconnaît pas, qu'il ne sait même plus qui elle est, qu'il ne sait même plus qu'il l'a croisée. Et juste avant de mourir, elle lui écrit cette lettre déchirante parce que, en fait, cette femme se rend compte qu'elle a consacré sa vie à quelqu'un qui n'a fait aucun cas d'elle.
Peu après que j'ai commencé à travailler là, le garçon que j'avais brièvement rencontré à Brooklyn est entré dans le magasin. Avec sa chemise blanche et sa cravate, il était métamorphosé. On aurait dit un écolier catholique. Il m'a expliqué qu'il travaillait à la librairie Brentano's, située downtown, qu'il avait un avoir et qu'il voulait l'utiliser. Il a passé un long moment à examiner tous les objets, les perles, etc. On est là cette fois chez Patti Smith, justement.
Ce très très beau, elle a écrit ce très beau livre, Just Kids, rien que des adolescents. C'est sa rencontre avec le photographe Robert Mapplethorpe et ça se passe en 1967 à Manhattan. Ils sont tous les deux jeunes, très jeunes, ils ont des rêves plein la tête, des rêves de réussite. Elle veut chanter, lui veut devenir photographe et elle raconte cette deuxième rencontre, ils sont déjà aperçus avant et il revient un jour par hasard dans un magasin où elle travaille et il veut acheter ses fameux colliers et elle lui souffle, en lui vendant un collier, elle lui souffle surtout ne le donne à aucune autre fille que
moi. Lorsque je l'ai emballé pour lui rendre, j'ai lâché sans réfléchir, ne le donne à aucune autre fille que moi. Immédiatement j'ai été gêné, mais il s'est contenté de sourire, promis.
Dans un instant, Franck Ferrand vous répondrait à la question de Maxime qui veut en savoir plus sur les origines du baiser sur la bouche.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, pour cette émission consacrée à l'amour, je vous lis la question de Maxime qu'on a reçue par courrier, Franck, tel quel. J'ai entendu dire que le baiser sur la bouche est une innovation du cinéma américain et que toutes les reconstitutions historiques jusqu'à la fin du 19e siècle dans lesquelles les personnages s'embrassent sur la bouche sont fausses. Pourriez-vous m'éclairer ?
Alors, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions, vous savez, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça n'en a l'air. D'abord, il faut faire la distinction entre baiser sur la bouche et baiser sur les lèvres. Avec la langue ou sans la langue? C'est ça la grande question. Le French kiss tel qu'on le pratique aujourd'hui dans le monde entier, c'est vrai que le cinéma lui a donné une ampleur considérable et que ce sont effectivement non seulement les films américains, mais les films en général qui ont répandu son usage et son habitude. Ça faisait partie des pratiques sexuelles, bien entendu, mais ça n'était pas aussi répandu que ça l'est devenu. Voilà ce qu'on peut dire. Pour ce qui est du baiser sur les lèvres, alors là, ce serait une très longue histoire parce qu'évidemment, il remonte à la plus haute antiquité. Il y a toujours eu ce baiser sur les lèvres. Il a une origine antique, bien entendu. Et je ne m'étendrai pas sur le rôle du baiser dans la Grèce antique, dans l'Empire romain, etc. Au Moyen-Âge, les baisers déterminent le rang social et embrasser quelqu'un sur les lèvres, c'est un signe de fidélité, de confiance, d'une certaine manière. Il y a aussi une dimension religieuse, ce qu'il ne faut pas oublier, avec tout un protocole des baisers dans le rituel religieux. Donc vous voyez que c'est assez complexe et que si le baiser tel que nous le connaissons s'est répandu assez récemment, effectivement grâce au cinéma, en fait il est quasiment sans doute aussi vieux que l'homme lui-même.